J'avais fait une petite enquête concernant Simone de Beauvoir pour vérifier si, de son côté, elle avait connaissance, si elle citait Patočka, si elle en avait connaissance, etc. J'ai pas fait une analyse exhaustive de tous les textes de Simone de Beauvoir, donc je ne peux pas vous confirmer la chose, mais les gens qui, les Beauvoiriennes et Beauvoiriens à qui j'ai demandé n'avaient pas l'air d'avoir en tête des textes précis de Beauvoir sur Patočka. Donc, à confirmer, à vérifier, voilà, l'enquête historique reste à faire. Le philosophe français Étienne Tassin, qui nous a quittés trop tôt en janvier 2018, se serait sans doute réjoui de participer à nos rencontres cannaises consacrées à la phénoménologie de Jan Patočka. Sans en être un spécialiste attitré, il avait contribué par des travaux remarqués à la visibilisation et à l'analyse de sa phénoménologie politique. Par exemple, en collaboration avec Marc Richir, il édite en 1992 un volume référentiel intitulé Jan Patočka, philosophie, phénoménologie politique aux éditions Jérôme Millon. Cet ensemble de contributions, issu d'un colloque qui s'est tenu à Paris en 1990 au Collège international de philosophie, réunit en effet pour la première fois des chercheurs du monde entier autour du philosophe tchèque décédé en 1977. Plus largement, Étienne Tassin s'est fait connaître par un travail original consacré à la phénoménologie politique de Hannah Arendt, intitulé La phénoménologie de l'action et la question du monde, qui était sa thèse de doctorat, présidée par Paul Ricoeur et soutenue en 1996. Dans ce travail, il montrait déjà combien la réflexion de Hannah Arendt ne correspond pas à une philosophie politique parmi d'autres, mais propose une élucidation phénoménologique de la condition politique des humains depuis une action saisie dans la perspective de l'institution d'un monde commun. En montrant les difficultés de la phénoménologie à décrire et à comprendre l'être au monde politique de notre existence, Étienne Tassin fut conduit, en un geste critique proche de celui de Jan Patočka, à lire le diagnostic de Arendt sous le prisme de l'acosmisme du monde moderne. Dès lors, c'est en analysant la condition humaine depuis son agir, et non depuis son essence ou sa subjectivité, que Arendt et Tassin à sa suite firent ressortir à même le conflit entre l'appartenance au monde d'un côté et la pluralité agissante de l'autre, les conditions d'une compréhension du vivre ensemble politique des êtres humains et du sens politique de l'institution d'un monde commun. Tassin montre alors comment la pluralité des agents, des acteurs, peut paradoxalement entrer en contradiction avec l'appartenance au monde lorsque leur action, selon sa démesure et sa violence propre, contestation, violence, résistance, révolution, en vient à détruire ce qu'elle seule pourtant est en mesure d'instituer en termes de monde politique commun. Et c'est cette tension productrice entre la pluralité agissante des êtres humains et notre appartenance au monde, que le philosophe arendtien, donc Étienne Tassin, formulera plus tard de la belle expression d'une cosmopolitique des conflits, qui est le titre de son ouvrage de 2003. Dans cet ouvrage, il produit un diagnostic toujours actuel de notre situation politique contemporaine, où entrent en tension des processus économiques anonymes de globalisation, toujours dominants, et l'émergence de ce qu'il nomme des singularités subjectives non identitaires, caractérisées par leur fragilité, leur dénuement et leur vulnérabilité. Sous cette expression, il a notamment en vue ce qu'il appelle la condition migrante, expression très parlante pour nous aujourd'hui au cœur de l'actualité douloureuse de la guerre en Ukraine, qui confronte toute l'Europe à la question de l'existence et de la condition des réfugiés, ou, comme on en parle aujourd'hui dans les médias de manière assez peu élégante, je trouve, des personnes déplacées. L'expérience de désolation que connaissent celles et ceux qui sont chassés de chez eux et de chez elles, deviennent des exilés, subissent la violence structurelle des États, même en terre d'accueil, rend urgente ce que Tassin nomme une cosmopolitique, à même de nous permettre de retrouver un monde commun. Aujourd'hui, je voudrais offrir ma contribution en une sorte d'hommage à la pensée toujours vive pour moi d'Étienne Tassin. Je le connaissais personnellement, c'était un ami, mon aîné de 10 ans, un peu un grand frère, et j'ai beaucoup appris à son contact à l'occasion de nos échanges amicaux. Et en préparant cet exposé, j'ai compris comment sa proposition philosophique d'une cosmopolitique qui prend à bras-le-corps l'existence de sujets singuliers, pour ainsi dire nomades, en tout cas précaires et du moins hypo-identitaires, pourrait-on dire, donc de sujets dominés et aliénés, permet de sortir en fait des apories croisées que l'on connaît bien entre des phénoménologies du sujet encore trop acosmiques, et je mettrai en série Husserl, Sartre, Lévinas, Henri et Marion de manière un peu grossière, mais bon, voilà, vous m'excuserez, et d'un côté, et des phénoménologies du monde encore trop anonymes. Et là aussi, je mettrai en série, peut-être de façon trop caricaturale, Heidegger, Merleau-Ponty et Barbarassa. Donc, en prenant appui sur sa proposition, proposition d'Étienne Tassin, je voudrais aujourd'hui explorer comment Yann Patochka, d'une part, Simone de Beauvoir, d'autre part, peuvent nous offrir des ressources fécondes et complémentaires pour penser plus avant une telle phénoménologie cosmopolitique. Et mon hypothèse sera que chacun des deux phénoménologues, Patochka et Beauvoir, accentue en fait une dimension de cette phénoménologie cosmopolitique, soit dans l'ordre de l'ébranlement, d'un ébranlement qui peut s'apparenter empiriquement à des formes de révolution, ébranlement qu'éprouvent et que produisent tout à la fois des sujets agissant en crise, soit, donc plutôt, ça ce serait plutôt Patochka, soit dans l'ordre d'une situation sociopolitique de différenciation des sujets dès lors genrés, et donc du sujet féminin que travaille Simone de Beauvoir, traversés qu'ils sont par leur aliénation corporelle constitutive. Donc, cette notion d'aliénation, on va voir qu'en fait, c'est une sorte de fil commun possible, fil rouge commun possible des deux auteurs. Je ne ferai que l'évoquer, mais ça peut être intéressant d'avoir ça en tête. Mais si l'on comprend bien l'intérêt de mettre la pensée d'Étienne Tassin depuis sa relecture de Hannah Arendt au service de la phénoménologie politique de Yann Patochka, pourquoi Simone de Beauvoir ? À parcourir en effet la bibliographie d'Étienne Tassin, cette dernière ne paraît pas avoir attiré son attention à l'époque et jusqu'à récemment. Donc je voudrais aujourd'hui, par ce complément beauvoirien, ouvrir une porte avec peut-être deux apports principaux. D'une part, la phénoménologie genrée de Simone de Beauvoir offre une piste herméneutique, à mon sens, inédite et encore trop peu prise en considération par la tradition phénoménologique, ici politique, et elle permet de reconfigurer en profondeur des enjeux pratiques et expérientiels. D'autre part, sa phénoménologie de la situation socio-historique vécue permet de moduler et peut-être de modérer ou de compléter un diagnostic très radical qui est celui de Yann Patochka, en ouvrant sur une position pacifiante des relations intersubjectives qui eut, à mon sens, fort bien convenu par ailleurs à la cosmopolitique d'Étienne Tassin. Donc, en m'intéressant de près à la phénoménologie que je nommerais sociopolitique de Simone de Beauvoir, j'ai été frappée par l'acuité de son diagnostic concernant les sujets aliénés que sont les femmes, constituées socialement et politiquement dans une identité que je nommerais résiliente à l'oppression, et partant aussi de consentement ambigu à la soumission. Et je voudrais mettre ce diagnostic critique, donc, qui est porté par Simone de Beauvoir sur ces sujets dominés qui forment, comme on le sait, plus de la moitié de l'humanité, en résonance avec le diagnostic critique que produit de son côté Yann Patochka à propos des sujets qu'il nomme lui-même ébranlés, qui sont donc des résistants, donc peut-être pas des résilients, mais en tout cas au moins des résistants à l'oppression totalitaire. Alors, on verra cependant que la voix de chacun de ces phénoménologues politiques est spécifique. L'une part passe par ce que j'appellerais un effacement, une forme d'effacement du sujet, dominé, ébranlé, et au profit d'une certaine façon d'une appartenance plus profonde au monde. L'autre passe en revanche par une forme d'assomption du sujet, c'est le terme de Beauvoir, au cœur même de sa finitude. Et ce, en lien avec une libération possible vis-à-vis de son aliénation constitutive, de ce que Beauvoir nomme son destin sociopolitique. Donc il y a un schéma dynamique chez Beauvoir, aliénation-libération, qui n'est pas nécessairement à l'œuvre de la même manière chez Patochka. Donc l'un nous situe dans une politique de la guerre permanente, l'autre dans une politique finale de l'apaisement possible de la conflictualité. On pourrait au fond se poser la question suivante. Si la cosmopolitique phénoménologique de Étienne Tassin a nourri plus de relations avec la phénoménologie cosmologique de Yann Patochka, comme on le sait, c'est attesté, n'est-elle pas, au fond, cette cosmopolitique, davantage en alliance, en revanche, avec la recherche beauvoirienne d'une pacification des conflits ? Donc, c'est une hypothèse voilà, qui serait intéressante d'avoir en ligne de mire dans ce que je vais vous présenter. Donc, premièrement, Patochka. Le phénoménologue tchèque fait de l'idéalisme subjectiviste ou surmien, ça a été beaucoup travaillé et retravaillé. En réalité, mon accès à Patochka au départ était essentiellement centré sur cette relation et sur cette critique il y a déjà quelques temps. Et donc, cette mise en question forte qu'il fait d'une, de l'ego, de l'aplomb de l'ego et de la posture d'évidence à soi de l'ego. Et évidemment, il y a des personnes qui sont beaucoup plus compétentes que moi pour parler de cela. Je pense à Gauche notamment, qui a pris la parole hier, pas sur ce segment, mais en tout cas, voilà, sur ce.
Si, si.
C'était là-dessus, donc, parce que le titre annonçait le rapport Harrison. Donc, du coup, je n'en parlerai pas. Voilà. Mais bon, pour rappel et aussi pour ensuite avancer, il est important de noter que cette primauté donc, constitutive de l'ego, eh bien, à cette primauté, il y substitue un a priori du monde, qu'on peut appeler un a priori du monde comme champ apparaissant, d'où émerge alors le soi apparaissant lui-même, sujet pour ainsi dire, donc c'est un terme que j'utilise et peut-être il faudra le rediscuter, un sujet pour ainsi dire effacé dans sa primauté, ou en tout cas mis en retrait, primauté donc qui est refusée à la fois sur le plan méthodologique et ontologique, au profit du monde qui le fait dès lors apparaître comme un soi asubjectif et qui emprunte des traits qui pourraient être concordants avec ceux d'une forme de passivité ou de vulnérabilité si on veut faire appel à d'autres phénoménologies que celle de Patochka. Donc c'est ce soi s'effaçant au profit du monde et dont il est l'émergence précaire que Patochka va également identifier parallèlement dans le contexte historique et politique des événements catastrophiques et traumatiques du monde dont il est le contemporain. Mais alors que dans le seul ordre d'une phénoménologie cosmologique, ce soi en retrait qui se trouve apparaître de façon certes seconde mais légitime depuis le monde apparaissant, eh bien dans l'ordre d'une phénoménologie historique et politique, il se fait soi abdiquant, comme c'est bien noté dans les textes de Patochka dès les années 30, dès sa thèse d'habilitation, voire soi sacrifié. Je pense aux textes, tous les textes de Liberté-Sacrifice qui, sur plusieurs décennies, et se trouve caractérisé donc par cet ébranlement principiel qui est une sorte de motto constitutif en fait de sa pensée. Bref, on pourrait dire que d'un ordre à l'autre, de l'ordre strictement phénoménologique cosmologique à l'ordre politique, la valence de ce sujet a changé. En fait, il est moins simplement en retrait, mais légitime comme second, que fondamentalement. Comment dire, ébranlé, crucifié, même peut-être pourrait-on dire. C'est aussi parce que dans l'ordre du monde historique et politique, c'est le monde lui-même qui finalement est en crise et donc qui se trouve ébranlé et qui se dérobe, que le soi peut-être en reçoit, en subit les conséquences et entre à son tour dans une forme d'ébranlement. Donc de simplement en retrait, effacé, se dérobant, eh bien, il se fait résistant, il entre dans une forme donc, de réactivité beaucoup plus auto-violente, on pourrait dire. Mais donc, si cet apparaître du soi encore en retrait est présent et légitime sur le fond de l'apparaître du monde, disparaît, ou en tout cas se perd, dans un ébranlement commun du soi et du monde, que reste-t-il donc ? Est-ce qu'il reste même quelque chose? Donc pour Yann Patochka, dans ce temps tragique de la crise historique du monde politique qu'il décrit avec acuité dans ses écrits hérétiques sur la philosophie d'histoire, et c'est surtout dans ce texte que je vais emprunter un certain nombre de jalons à présent, donc ce texte de 75, la seule chose qui demeure et qui fait lien, c'est la relation qu'entretiennent ensemble ces soi abdiqués et ébranlés, donc ce qu'il nomme lui-même, d'un terme qui a été beaucoup commenté et repris, leur solidarité. Pourtant, comme on va le voir, cette solidarité, elle ressemble peu à ce qu'il est convenu aujourd'hui de nommer solidarité. Dans notre monde soucieux, c'est vrai, de venir en aide souvent aux plus démunis, mais depuis une position sociale de confort et de privilège, souvent animée par un sentiment de bonne conscience. Donc on va voir que Patochka en fait, s'attache à penser à décrire en réalité la crise même du politique dans ses moments de tension les plus extrêmes, et non le confort d'un civisme organisé de l'entraide mutuelle. Au fond, c'est la tension sans repos ni apaisement du corps politique qui est ainsi mise en exergue par notre philosophe. Donc on le sait, son engagement politique militant et résistant qui se concrétise au moment de la signature de la charte 77, ça c'est bien connu, donc cette pétition qui a été rédigée par des dissidents s'opposant à la normalisation du régime communiste dans les années donc 60-70. On sait aussi qu'il en est mort littéralement de la répression policière qui s'en est suivie. Et donc c'est cet engagement total qui correspond à cette idée, à cette expérience d'un soi donc abdicant, sacrificiel, qu'il décrit donc d'ailleurs dès les années 30 et qu'il va cesser de reprendre jusque dans les années 70, mais qui le conduit dans ses essais hérétiques sur la philosophie d'histoire à mettre en évidence une vision de la vie politique caractérisée structurellement par sa dynamique conflictuelle, par son polémos. Et donc, à cet égard, il s'oppose à une conception caractérisée, qui serait caractérisée par une sorte de sympathie éphémère, c'est une expression qu'il utilise aussi, ou reliée à une forme de coalition d'intérêts, donc, qui sont des visions très plus comment dire, consensuelles, en fait, hein, de ce qu'on pourrait appeler solidarité d'une autre façon. Et de ce point de vue-là, à mon sens, il anticipe sur d'autres types d'options politiques, donc développé par exemple par un auteur comme Jürgen Habermas dans L'agir communicationnel, donc des options de dialogue rationnel et de délibération, de concertation ou de consensus. Donc il va évidemment être totalement en rupture par rapport à cette façon de voir, dans la mesure où c'est un, voilà, ce lieu de la délibération dissimule, on pourrait dire que ça dissimule selon lui justement ce qui relève en fait des oppressions sociales elles-mêmes. Mais il s'oppose aussi à une vision, à une version de la vie politique caractérisée certes par une conflictualité, mais entendue, cette conflictualité étant entendue comme le ressort ou le moyen dialectique de l'obtention de la paix sociale. Et là, on serait plus proche de versions un peu lato sensu, drainées par les projets de Kant ou même de Hegel. Donc pour Patočka, ces deux visions de la vie politique, soit le consensus délibératif Habermas, soit donc des visions dialectiques de la guerre pour la paix, disons, ce sont des visions qui, évidemment, peuvent être considérées comme des idéaux régulateurs importants, mais en fait, elles ne rendent pas compte de ce qui caractérise fondamentalement la tension immanente des forces en présence au plan collectif. Et en fait, elles, d'une certaine manière, ces visions plus consensuelles ou pacifiantes recouvrent la dynamique, cette dynamique sous une représentation, sous une volonté, soit un désir implicite ou pas, finalement, que tout aille bien dans le meilleur des mondes possibles, si je peux dire. Donc, à cet égard, le motif de la discorde, donc de la confrontation, de l'adversité, eh bien, c'est pour Patočka le seul moteur réel de la dynamique collective. C'est cette tension, ce tonos, qui fait la vie politique, à même le conflit des idées, et qui définit le sens fort de la liberté, donc de ceux qu'il nomme les intrépides. Donc il s'agit de comprendre la société comme le lieu fécond d'une tension contradictoire permanente, selon l'image qu'il aime bien à reprendre, l'image de la déesse de la discorde, de l'Iris, une discorde qui n'est jamais destinée à s'interrompre. Donc c'est ça l'ébranlement continu dont il parle. Cette vie politique réside justement à partir de là, plus concrètement encore, dans la confrontation permanente avec un autre qu'il identifie lui-même comme l'ennemi, l'adversaire. Et c'est cette conscience du péril et du risque qui nous rend, selon lui, davantage vivants, davantage conscients de notre fragilité, de notre précarité. Et donc, à partir de là, Patočka court-circuite toute tentation de retomber, bien naturellement, de retomber à chaque moment dans le confort d'une vie apaisée, qu'il qualifie lui-même de routinière, et qui, dans notre monde, pourrait répondre à des actions que nous connaissons bien, d'une forme de capitalisme même post-consumériste. En ce sens, Patočka exerce un geste fort d'époquer de l'attitude naturelle, donc c'est là que, évidemment, la position husserlienne se trouve drainée, mais qu'il va lui-même reformuler en termes de problématicité, donc pour insister sur le fait que c'est une attitude structurelle, finalement, définitive et indépassable de notre être humain. Exercer donc un geste fort d'époquer de cette attitude naturelle d'un humain qui est sans cesse tenté, en fait, par la concorde et l'harmonie. Et c'est la raison pour laquelle il plaide, de façon peut-être provocatrice, mais en fait existentiellement extrêmement aiguë et vécue, pour un état de guerre et d'adversité. Donc c'est cet état qui est selon lui le ferment le plus sûr d'une solidarité forgée à même l'ébranlement commun que vivent les sujets. Alors on pourrait dire que la radicalité de la pensée de Patočka, c'est ce qui le conduit à décrire donc l'état de crise comme un état qui ne connaît plus de phase différenciée, c'est-à-dire qui ne connaît plus un avant, un après et un moment de rupture. Donc, qui ne connaît pas, en fait, et qui a tendance à penser la phase même de la crise, à penser plutôt la phase de préparation de la crise selon l'état même de la crise elle-même. Donc, de nous installer dans une sorte d'état permanent de crise. Cet état de guerre ouverte et permanente, eh bien, comme il est constitutif de l'être ensemble, d'une certaine façon, il produit une forme d'écrasement de la phase, ce qu'on appelle souvent une phase d'attente ou l'horizon d'attente de ce qui sera une crise, qu'elle soit révolutionnaire, guerrière, conflictuelle, quelle qu'elle soit. Donc, à partir de là, on peut se demander, en fait, qu'est-ce qu'il en est d'une forme de discontinuité qui semble malgré tout raisonnable de conserver entre ce qui correspond, en tout cas ce que rationnellement on a tendance à identifier en termes d'une phase d'attente, une phase d'avant la crise et du moment même de la crise. Donc, comment est-ce que Patočka peut répondre à quelque chose qui, dans notre esprit, répond malgré tout à une forme de dynamique de la crise avec une différenciation de ces différentes phases. Donc, c'est une question que je pose. Je n'ai pas forcément de réponse, mais je pense qu'il y a quelque chose comme une sorte de conflagration qui produit un effacement ou une indifférenciation justement des phases d'une dynamique qu'on a tendance peut-être encore trop rationnellement à penser ainsi, mais c'est aussi dans notre propre expérience qu'on pense cette différenciation des phases. Elle n'est pas simplement rationnelle. Donc, c'est vrai que moi, je serais plus tentée de valoriser une interprétation un peu plus discontinuiste, ménageant cette différenciation, plutôt que de faire droit à quelque chose qui a tendance à écraser, en fait, la dynamique. Et à cet égard, par exemple, en contraste ou en différence, on pourrait faire appel à la position de quelqu'un comme Walter Benjamin, qui pense aussi, évidemment, de son côté, dans les écrits sur l'histoire, le phénomène de la crise, de la guerre, de la révolution, mais qui le pense comme qui pense la crise comme un moment d'actualisation d'un rapport discontinu au temps. Donc, qui met en scène justement une discontinuité dans la relation au temps et qui identifie la crise comme un temps qui n'est pas écrasable par les phases précédentes ou les phases suivantes. Donc, avec Patočka, on a, il me semble, affaire à un temps politique qui est intrinsèquement et continuellement critique, et donc avec une temporalité de l'ébranlement qu'on pourrait nommer chronique, c'est-à-dire qui sans cesse finalement se reconduit à lui-même sans possibilité d'avancement. Il ne s'agit pas d'opposer les deux auteurs, enfin Patočka et Benjamin. On pourrait penser finalement Patočka peut-être comme la pensée limite inconfortable du second de Benjamin, comme l'emballement de Benjamin. Mais en tout cas, voilà, c'est un différentiel que je voudrais mettre en place parce que je vais ensuite le mettre à profit d'une autre façon dans ce que je vais vous proposer pour le deuxième temps. Il me semble que Étienne Tassin, de son côté, pour reprendre ce référentiel qui m'intéresse beaucoup à titre de cadrage général, dans sa cosmopolitique des conflits, il a bien prolongé, d'un certain point de vue, la réflexion du phénoménologue tchèque en insistant sur la conflictualité structurelle de la société civile européenne et mondiale. Mais finalement, la donne kantienne qui alimente parallèlement son propos à Étienne Tassin, eh bien, le conduit in fine à privilégier une cosmopolitique planétaire qu'il nomme lui-même réussie, où donc, en dépit des discordes, eh bien, on finit par partager paisiblement un monde commun. Donc, à partir de là, ce que je voudrais faire dans un deuxième temps, plus court, je pense, un peu plus court, oui, je voudrais faire droit à présent à la conception phénoménologique de Simone de Beauvoir. À titre de complément, en vue d'une pensée justement qui permet de mettre en place ce monde commun pacifié, sans pour autant renoncer à la pluralité conflictuelle des sujets en action. Alors, mon idée, c'est que Beauvoir nous offre une approche justement du sujet, de la subjectivité, en assomption d'elle-même, c'est son terme, à même son aliénation. Donc, on a une scène conflictuelle productive dans la phénoménologie de Simone de Beauvoir qui est privilégiée donc qui est posée en termes de conflits multiséculaires opposant les sexes masculins et féminins. Donc, on se déplace sur ce terrain genré avec Simone de Beauvoir avec un prisme asymétrique de domination des premiers sur les seconds, dès lors opprimés. Donc c'est ce qui fournit à la phénoménologie Simone de Beauvoir une signature assez inédite et qui lui donne donc un ancrage dans une conception du sujet traversée par cette différenciation genrée, structurelle, et une dynamique conflictuelle masculin-féminin avec une polarité, donc activité, liberté, domination d'un côté, passivité, aliénation, oppression de l'autre. Alors, il me semble que la phénoménologie Simone de Beauvoir, à sa manière, de façon interne, permet de relire sous ce prisme une bonne partie de l'histoire de la phénoménologie, avec deux propriétés majeures, qui sont, à mon sens, les propriétés vraiment déterminantes de sa phénoménologie. D'une part, justement, cette compréhension du sujet comme différencié et genré, et d'autre part, la compréhension d'un sujet situé socio-historiquement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces deux opérateurs, ces deux propriétés de la phénoménologie de Simone de Beauvoir, ce qui caractérise sa signature spécifique, il me semble, c'est qu'ils sont pensés conjointement. En fait, ils sont pensés ensemble. Et en fait, c'est leur conjonction qui est absente de beaucoup d'analyses phénoménologiques antérieures. Et c'est ça qui donne à la phénoménologie politique de Beauvoir un statut singulier. Donc, je ne vais pas retracer en fait toute la manière dont on pourrait relire l'histoire de la phénoménologie à l'aune de ces deux propriétés et comment voilà, ça permettrait de rafraîchir en fait la phénoménologie dans ses différentes postures. Mais ce qu'on peut dire tout simplement, c'est que la conception genrée, si on peut partir de la première propriété, la conception genrée du sujet chez Simone de Beauvoir lui permet en fait de court-circuiter ce qui relève du donné d'un côté et du construit de l'autre, pour faire droit à l'expérience vécue, donc à faire travailler vraiment le vécu en deçà de la distinction donné-construit, d'une part, et donc à partir de là, donc de faire ressortir un certain nombre de dimensions, d'expériences qui n'ont jamais été prises en charge en fait dans la phénoménologie jusqu'à présent, dès l'instant où finalement le vécu universel de référence s'est imposé tacitement depuis le point de vue masculin, mais sans être véritablement assumé comme tel, ou quand il est assumé comme tel, en réalité en étant quand même réinvesti comme le vécu, disons le vécu de référence général. Donc, il me semble que ce travail de restitution, finalement, d'une différenciation des sujets masculins et féminins, il est éminemment politique. Il n'est pas simplement social ou historique, il est éminemment politique, parce qu'en fait, il permet d'identifier, du sein même de cette différenciation, une structure de domination qui est en jeu dans les relations hommes-femmes. Avec trois gestes critiques principaux, que je rappelle rapidement, d'une certaine manière, ça permet de déconstruire des vécus féminins qui sont finalement induits par le point de vue masculin, avec des attitudes typiques de femmes qui sont recensées par exemple dans le deuxième sexe autour de figures un peu de mythes, ce que Simone de Beauvoir appelle des mythes, donc la mère, l'épouse, l'amoureuse, la narcissique, la mystique, donc des figures un peu identifiées mais un peu télécommandées. D'autre part, ça permet de visibiliser des attitudes qui dans la phénoménologie disons historique classique était inaudible depuis le point de vue masculin parce que fortement relié à la réalité spécifique du vécu corporel et émotionnel des femmes. Donc, un certain nombre d'expériences qui peuvent toucher donc à la... ce à quoi on pense automatiquement, c'est par exemple la grossesse ou l'enfantement, mais on peut aussi penser à toutes les formes de transformation du corps qui passent par la puberté, qui passent par la ménopause, qui sont des phénomènes très différenciés chez les hommes et chez les femmes, ou le rapport au vieillissement aussi. Donc là, on a des visibilisations d'expériences qui n'étaient pas finalement disponibles dans la phénoménologie jusqu'alors parce que non portées publiquement par une parole ou par une écriture venant du point de vue féminin. Et puis enfin, troisièmement, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de faire ressortir une dynamique de différenciation dans un diagnostic où la situation vécue des hommes et des femmes est prise en considération de façon différenciée. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de jouer l'un contre l'autre, mais il s'agit de faire varier, pardon, je vais avoir une laryngite. Il s'agit, merci beaucoup, il s'agit de faire varier des points de vue en montrant justement la différence de situation que connaissent les hommes et les femmes, et donc aussi potentiellement de permettre au point de vue masculin de réinterroger son propre vécu sur un terrain corporel et émotionnel qui finalement n'a pas été véritablement pris en considération dans les analyses phénoménologiques disponibles. Des vécus donc jugés un peu trop intimes pour être visibilisés par rapport à des approches plus structurelles de l'expérience et qui invitent à aussi scruter des vécus masculins de fragilité, de faiblesse, de pudeur, finalement encore peu thématisés et peu identifiés à travers des expériences qui sont, par exemple, des expériences de viol masculin, enfin, qui est très peu visibilisée. Donc, cette propriété d'expérience d'un sujet genré et qui est donc caractérisée par une conflictualité structurelle, finalement, de sa situation d'aliénation, domination, eh bien, c'est ce qui permet, en fait, de comprendre que la deuxième propriété que j'évoquais au tout début de mon deuxième temps, comme situation d'un sujet socio-historiquement ancré, les deux propriétés sont totalement reliées, en fait. Hein. C'est pas, voilà, il n'y a pas l'une et l'autre, en fait, c'est parce qu'on a cette compréhension d'un sujet dans sa structure d'aliénation-domination qu'on va évidemment avoir une situation socio-historique et socio-politique de ce sujet. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est le fait que ces deux propriétés soient conjointes et soient pensées ensemble par Simone de Beauvoir. Et donc, en fait, je vais aller un peu plus vite. Je ne vais pas développer tout ça. Mais ce que je voudrais montrer, c'est qu'à partir de ces deux propriétés, donc conjointes, eh bien, il me semble qu'on peut passer sur un plan qui serait plus directement politique. Parce qu'en fait, j'ai insisté sur le fait que chez Simone de Beauvoir, on a une phénoménologie qui est d'abord sociale et historique, et dont la dimension politique, elle est bien sûr incluse, mais elle n'est pas forcément explicitée comme telle. En même temps, elle est totalement structurellement présente, puisqu'elle est reliée justement à cette structure intersubjective asymétrique, domination-soumission. Donc là, on est vraiment dans un registre qui est structurellement politique. Le masculin construit le féminin comme une altérité, entendue comme un objet aliéné, et se construit lui-même comme une liberté affirmatrice de soi. Donc de ce point de vue-là, le diagnostic de Beauvoir, il n'est pas seulement descriptif, il est transformatif, et il engage une politique de changement en fait, des relations sociales vécues, qui fait devenir la femme, comme selon le mot bien connu de Simone de Beauvoir, on n'est pas femme, on le devient, donc avec une trajectoire de prise de conscience qui va de l'aliénation à la libération. Et c'est ce qu'on trouve notamment dans le dernier chapitre du deuxième sexe, du deuxième volume, sous le titre « La femme indépendante », où Simone de Beauvoir esquisse une prospective politique qui est placée sous le signe, qui serait placée sous le signe de la reconnaissance mutuelle pacifiée de deux libertés, donc les hommes et les femmes, et d'une forme d'assomption du sujet féminin au statut de sujet libre, d'objet aliéné qu'il était dans le regard de l'homme. Donc ce qui me semble intéressant dans la perspective de Simone de Beauvoir, c'est qu'on a une dynamique qui nous fait passer donc, d'un statut d'aliénation à un statut de libération à travers un moment de crise. Donc, pour reprendre ce schéma que j'évoquais tout à l'heure de la différenciation des phases par rapport au moment de rupture et donc de d'ébranlement qu'est la crise, dans la phénoménologie politique de Beauvoir, on a bien en fait cette dynamique et cette recherche et cette volonté. Ce n'est pas seulement un espoir ou quelque chose qu'on voudrait ou un désir, mais on est vraiment beaucoup plus dans le fait d'assumer finalement le passage à un moment de libération. Et par rapport à cela, il me semble que la position de Patočka pourrait être justement repensée à cette lumière-là pour vérifier si ce schéma dynamique, finalement, comment est-ce qu'il pourrait être décrit chez Patočka? Est-ce que c'est même possible de le décrire? Ou est-ce qu'on n'est pas finalement dans une phénoménologie qui met exclusivement l'accent finalement sur le moment de la crise et sur sa dimension permanente. Est-ce qu'il y a une dimension transformatrice possible finalement et un état de pacification possible à partir donc de cette situation extrêmement radicale qu'explore Patočka dans l'ébranlement, la notion d'ébranlement continu. Donc, mon idée, c'était d'essayer de voir à partir de là comment on pouvait justement adjoindre ce complément au beauvoirien. Alors, Beauvoir, ça pourrait être d'autres pensées. Hannah Arendt, par exemple, pourrait être très intéressante à mettre en perspective, et sans doute de façon plus interne, d'ailleurs, peut-être à la pensée de Patočka. Mais en tout cas, l'idée, ce serait d'essayer de voir dans quelle mesure, pour penser une phénoménologie politique, il est important, il peut être intéressant d'avoir en tête ces deux composantes et de voir jusqu'où Patočka peut nous permettre de penser finalement un état de conflit structurel qui peut déboucher sur autre chose que lui-même et pas sur la reprise incessante de ce même état à l'infini. Est-ce qu'on n'est pas dans quelque chose de chronique chez Patočka, pour le formuler autrement, et quelle est la possible résolution? Donc voilà, ça me semble intéressant en tout cas, et aussi en ayant en tête que par exemple aussi bien Patočka que Simone de Beauvoir ont beaucoup lu Hegel, et c'est une référence commune chez chacun des deux, mais finalement leur interprétation de Hegel, je pense, ne va pas du tout dans le même sens, dans la mesure où pour Simone de Beauvoir, Hegel est vraiment un auteur qui lui permet de penser une forme de dialectique qui, de manière utopique, en fait, a une forme de résolution possible, alors que la pensée de Patočka est peut-être plus proche d'un, par exemple, d'un Adorno, enfin, donc d'une dialectique qui, justement, tient dans son irrésolution. Donc voilà, donc je vous livre ces hypothèses pour terminer. Je vous remercie de votre attention.